retrouvons l'économiste Daniel Cohen qui dirige le département d'économie de l'école normale supérieure. Emmanuel Macron et sa politique économique, une inflexion selon vous et un bilan au bout d'un an des réformes entreprises?
Oui, enfin, ça a été très bien décrit. Il profite du fait que l'opposition a été pulvérisée par son élection, donc ça rend très difficile en effet d'avoir quelque chose qui ressemblerait à un ensemble cohérent de contre-propositions, puisqu'on est encore en train de faire le deuil en France du système politique classique. Alors je ne sais pas si c'était centre-gauche, centre-droite, ça ne ferait pas spécialement plaisir à Mitterrand, mais en tout cas une alternance gauche-droite qui faisait qu'on savait ce qui vous attendait si vous passiez dans l'autre camp, ça n'est plus le cas maintenant, ça crée une espèce de vertige aussi, on voit ce qui se passe en Italie, je ne suis pas sûr que les Français aient envie de ce genre de coalition. Encore une fois, ils pourraient adhérer à l'un ou l'autre, mais la coalition elle-même ne leur conviendrait pas. Il y a une question de pédagogie, vous le disiez, mais ce n'est pas exactement de la pédagogie, c'est une habileté tactique assez subtile qui consiste à partir à chaque fois d'un dysfonctionnement patent. Donc, APB, le fameux logiciel qui permettait de s'inscrire en fac, dysfonctionnait complètement, on tirait au hasard, ça ne va pas, alors on le remplace par quelque chose, personne ne peut aller contre ça. Ça fait partie de la manière de procéder, même si moi j'ai personnellement beaucoup de doutes sur le fait que Parcoursup fera beaucoup mieux. On va découvrir beaucoup de pathologies quand les logiciels de recrutement dans les universités vont faire des choix et quand on comprendra la nature de ces choix, tout ça créera une bombe à retardement. Mais la méthode est celle-là, un peu la même chose pour la SNCF. Ça marche pas, les trains sont en retard, il y a l'annonce qui dysfonctionne. Bon, alors on part de cette pathologie et on peut montrer à l'opinion publique qu'il y a un besoin de réforme. Et puis troisième chose, il y a encore de la croissance économique, le climat se dégèle et même si je crois la corrélation entre le retour de la croissance et les mesures qui sont prises est absolument nulle, peu importe, on voit que ça va mieux, donc il y a un peu cette présomption que les choses se mettent en mouvement. La croissance, si elle devait s'arrêter à cause des crises financières dont on va parler, alors là pour le coup on reprendra votre édito, vous verrez que je crois les choses se présenteront plus du tout de la même manière.
Pourquoi corrélation nulle ?
Bah, corrélation nulle, parce que la croissance est le résultat d'une reprise, enfin presque mécanique, de la croissance de la zone euro. La France a toujours fait comme la zone euro en moyenne. D'ailleurs, les statistiques du Fonds monétaire international qui ont été publiées, qui sont assez extraordinaires, de 2000 à 2009, bon, c'est le chiffre que donnait le Fonds monétaire, la zone euro a fait 1,4, la France a fait 1,4. C'est juste absolument extraordinaire. Il y a une reprise de la croissance, parce qu'il y a un moment où les crises s'interrompent et où les investissements repartent. La France fait un petit peu moins bien que la zone euro, mais elle repart avec la zone euro. Si la zone euro devait rentrer en crise à cause de l'Italie, vous verrez que ça s'interrompra. Et déjà, il y a des signes qui montrent que ça patine un tout petit peu. Donc, peut-être que déjà, on est en train de se poser la question de savoir si la croissance sera aussi durable que prévu dans la zone euro et donc, je crois, aussi en France.
Bon, mais restons en France. Il y a malgré tout eu un certain nombre de réformes économiques. Frédéric Saez a parlé, par exemple, de la réforme de l'ISF. On voit qu'il y a eu un certain nombre de choses entreprises, notamment sur le marché du travail. Tout ça va bien finir par avoir des conséquences positives ou négatives, Daniel?
Certainement, on le verra, mais pas maintenant, pas dans les 6 derniers mois. Le plan de réforme qui a été voté en septembre ne peut pas se traduire par une modification de la croissance au dernier trimestre de l'année dernière et de cette année. Pour vous donner un exemple, puisque je vous sens impatient, on a fait une réforme du marché du travail. L'essentiel des recrutements continue de se faire en CDD à 75%. Au sein de ces CDD, 80% des embauches continuent de se faire avec des CDD de moins d'un mois. Or, ce qui avait été annoncé avec cette réforme du marché du travail, c'est qu'elle mettrait peut-être un peu plus en précarité les gens qui ont un emploi, mais elle aurait l'immense avantage de faire qu'on ne recruterait plus en CDD. On n'aurait plus peur d'embaucher en CDI puisque le licenciement deviendrait plus facile. On ne le voit pas du tout. Donc peut-être que le raisonnement sera vrai au bout du compte. Il y aura en quelque sorte un arbitrage entre les outsiders qui auront plus de facilité à rentrer sur le marché de l'emploi et les insiders qui seront un peu plus menacés. C'est ça le raisonnement. Mais pour l'instant, dans les statistiques de l'embauche, on ne le voit pas. Et l'ISF, peut-être que avec le Brexit, on verra des grands milliardaires russes, des oligarques qui viendront s'installer en France. Pour l'instant, ça n'est pas le cas non plus. Donc, je n'injurie pas l'avenir. Peut-être que ça se produira. Mais il est impossible de dire raisonnablement que c'est ça qui explique le rebond de la croissance en France. Je crois encore une fois, c'est mécaniquement le résultat de la reprise de la croissance dans la zone euro dans son ensemble. On fait un peu moins bien pour l'instant, comme d'ailleurs on a fait un peu moins bien depuis 5 ans. Et bon, on reste suspendu à l'avenir de la zone, comme c'est finalement tout à fait logique.
Mais j'ai cru comprendre, Daniel Cohen, dans les interviews que vous aviez données, que vous étiez par exemple sceptique sur la politique fiscale du gouvernement.
sceptique sur la politique, je me souviens plus d'avoir
vous avez dit que notamment le gouvernement Macron avait mangé son pain.
Ah oui, oui, pardon, bien sûr, pas fiscal, la politique budgétaire, pas fiscale.
Cohen.
Pardon, excusez-moi. Non, il y a une différence entre fiscale, c'est-à-dire la fiscalité et budgétaire solidifiée. Non, oui, pardon, excusez-moi. Non, mais bien sûr, tout à fait. C'est-à-dire je pense que la grande faiblesse de ce gouvernement de son propre point de vue et qui va payer peut-être d'une certaine façon et certainement si la croissance devait se ralentir, c'est que il a presque au premier jour de son élection mangé toutes ses marges budgétaires, c'est-à-dire que en annonçant la baisse de la taxe d'habitation, la quasi-suppression de l'ISF, une baisse annoncée de l'impôt sur les sociétés, il a une ardoise fiscale. Il s'est posé en quelque sorte une ardoise fiscale considérable. On parle en régime annuel de 35 milliards peut-être. C'est d'ailleurs par parenthèse exactement le chiffre de la hausse des impôts qui avait été consentie par François Hollande. Ce qui veut dire que quand il fait des réformes, il n'a plus de ressources. Il a écarté le plan Borloo, pas parce que c'était deux mâles blancs, c'est simplement parce qu'il n'a pas les moyens de ce programme. Il a fait une grande réforme, le gouvernement a fait une grande réforme de l'accès à l'université, puisqu'on va, au fond, si je comprends bien, avoir une quatrième année pour faire la licence, une année de propédeutique pour ceux qui ne sont pas au niveau. Si ça se passe comme il est annoncé dans le débat, c'est peut-être une bonne chose. En effet, peut-être qu'il y a des élèves sortis des lycées qui ont besoin d'une année de plus pour se mettre à niveau. Mais qui va la payer? Est-ce qu'il y a des ressources pour augmenter d'un quart les dépenses consacrées à la licence? Je ne crois pas. Il y a eu un rapport Viviani sur l'intelligence artificielle qui a pointé le fait que nos jeunes chercheurs qui rentrent comme chargés de recherche au CNRS gagne 1,7 fois le SMIC. C'est très inférieur à ce qu'il pourrait gagner n'importe où ailleurs pour faire le même métier en Europe, dans le monde et a fortiori dans le secteur privé. Il demandait de le doubler. Ça a été évidemment immédiatement écarté. On parle de la crise italienne. Je crois, on n'a pas beaucoup parlé, et insuffisamment, et c'est normal, des fondamentaux de cette crise. Il y a évidemment la crise migratoire qui est numéro un, et on l'a vu avec le parallèle avec la Slovénie et la Hongrie. Mais il y a une crise de croissance durable en Italie depuis une vingtaine d'années qui tient au fait que l'Italie n'a pas réformé son système universitaire, n'est pas capable de faire de la recherche et développement de haut niveau. Tout ça, c'est des ressources. Alors, on peut vouloir baisser les dépenses, mais ça prend du temps. Mais même dans la logique du gouvernement, il y a des urgences que le gouvernement n'est pas capable de colmater à cause de cette impasse budgétaire.
Mais pourtant, on n'arrête pas d'expliquer dans le cas italien que le réseau, le tissu industriel italien est de bon niveau dans le Nord.
Était de bon niveau, mais il ne s'est pas renouvelé depuis 20 ans. Il y a une étude très importante d'un économiste italien qui s'appelle Zingales, pardon, qui a regardé en détail les raisons du ralentissement de la croissance économique italienne. Bien justement, ce réseau de PME très solide, les Benetton et autres, qui faisaient la fierté du nord de l'Italie il y a encore 20 ans, contrairement à leurs homologues allemandes, aussi des grands réseaux de PME, ne se sont pas réinventés. La recherche et le développement y est très faible. Et c'est pas les choses qu'on dit habituellement, le marché du travail, enfin selon cette grande étude de Zingales, qui sont principalement responsables. C'est la R&D en Italie qui est presque la moitié inférieure à ce qu'on fait en France, qui n'est même pas un modèle en la matière, puisque on est nous-mêmes un tiers de moins que les États-Unis ou le Japon, par exemple. Et les raisons sont un peu de même nature que celles qu'on a en France, c'est-à-dire un système d'enseignement supérieur et de recherche totalement dysfonctionnel.
Mais ça veut dire que finalement, vous êtes extrêmement sceptique sur l'efficacité que peut avoir une réforme du marché du travail.
Non, je suis pas sceptique.
Bah, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure sur la politique menée par Emmanuel Macron.
Non, c'est deux choses différentes. Je dis d'abord que ça n'est pas à cause de ces réformes que la croissance repart.
C'est entendu.
Et on ne le voit pas sur le marché du travail aujourd'hui. On peut faire des réformes du marché du travail, mais pour aller dans la logique du gouvernement, on dit on va rendre plus simple le licenciement. Bon, personnellement, je ne crois pas que ce soit le problème. Et je pense.
Bah, c'est ça, être sceptique.
Au bout du compte, ça n'est pas la mesure centrale. Mais dans l'esprit du gouvernement, il faut aller jusqu'au bout. Il faut supprimer les CDD, sauf exception dans des secteurs qui ne peuvent pas faire autrement. À ce moment-là, on aurait du « en même temps ». On pourrait dire « voilà, je rends plus simple de licencier » et « en même temps, il n'y a plus de CDD ». C'est-à-dire qu'on n'a plus le choix. On recrute quelqu'un en CDI, sauf encore une fois quelques dérogations spécifiques. Voilà ce qui, du point de vue du gouvernement, aurait pu donner corps à l'idée d'une flexi-sécurité. Voilà. Et encore une fois, fois, bon, ce n'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Peut-être qu'il n'est pas, il n'est pas trop tard. Moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit le cœur du problème. Je reste très ancien, peut-être archaïque. Je pense qu'il fallait réinventer le syndicalisme. Je pense qu'on a absolument besoin, si on veut faire comme les Danois, d'avoir un mouvement syndical fort et responsable. Et ça n'est pas ce qui s'est passé non plus, puisque déjà, pour démarrer, cette réforme rend totalement inutile le syndicalisme pour les entreprises de moins de 50 salariés, puisque dorénavant, on peut organiser directement des référendums d'entreprise. Donc voilà, il y a plusieurs chemins, mais dans le chemin emprunté par ce gouvernement, il y avait manière d'aller beaucoup plus loin dans la cohérence de ce qui avait été annoncé pendant la campagne. Ça n'est pas ce que je vois non plus.
Si ça n'est pas ce que vous voyez, quelle peut être aujourd'hui une politique économique qui vous paraisse une politique économique pertinente, surtout qu'il y a l'articulation. On a beaucoup parlé tout à l'heure avec la situation italienne des conséquences sur l'Europe, sur la politique économique française et son lien éventuel avec la politique économique allemande.
Alors, bon, on peut remouliner les arguments de la campagne. Je pense que ça n'a plus d'intérêt aujourd'hui dans la situation actuelle. Mais en revanche, sur l'Europe, oui, c'est très important. Et c'est là que Macron rentrera dans l'histoire ou pas, au-delà de l'histoire de l'ISF, etc., qui sont des histoires finalement franco-françaises qui intéressent beaucoup les Français, mais je suis pas sûr que ce soit d'un enjeu planétaire. Là, on est face à une crise, encore une fois, italienne majeure qui se prépare. Est-ce que Macron, Merkel seront à la hauteur des temps? Et pour l'instant, je n'en vois pas vraiment les signes. Madame Merkel a un peu attiédi son discours sur un budget de la zone euro. On parle de chiffres dérisoires. Alors, est-ce que à partir de ce dérisoire, enfin, elle a dit elle-même quelques dizaines de milliards d'une main, enfin, en quelque sorte. Donc, on aura peut-être un budget, je crois, de 30 milliards, 40 milliards maximum pour l'ensemble de la zone euro, ce qui est une goutte d'eau. Maintenant, est-ce que Macron...
Une goutte d'eau, pourquoi? Parce qu'il faut rappeler les ordres de grandeur.
Les ordres de grandeur, on est sur le PIB français, c'est 2200 milliards, pour donner juste ce chiffre. Le PIB italien, c'est un peu moins. Le chiffre allemand, c'est un peu plus. Donc, quand on dit un budget de 30 milliards, on voit bien que c'est tout petit. Bon, il faut accepter les médiations politiques, mais j'espère que Macron, j'espère vraiment sincèrement, et je serai là pour le coup de cœur avec lui, arrivera à utiliser cette petite porte entrouverte pour créer des précédents. Des précédents, ça va être par exemple, qui va discuter des dépenses en vis-à-vis. Moi, je souhaiterais que ce soit le Parlement européen qui soit doté, bon, peut-être de 30 milliards, avec liberté absolue d'en faire l'usage qu'il voudra pour des grandes causes, de manière non récurrente, voilà, avec 30 milliards chaque année, qui ne soit pas immédiatement absorbé par des tâches qui seraient, je sais pas quoi, des gardes-frontières, bon, qui, du coup, d'une certaine manière, feraient qu'il n'y aurait plus de budget. On peut faire avancer le schmilblick, on peut dire, voilà, vous avez un coup de poing chaque année que vous pouvez donner, une fois dans la recherche, une fois dans ceci, une fois, en effet, pour une crise financière, si elle venait. Deuxièmement, il faut que des règles nouvelles s'instaurent, même si c'est un tout petit budget. Il faut créer quelque chose qui ressemble à un mécanisme qui pourrait ensuite, pour la génération d'après, devenir vraiment en référence. C'est-à-dire, non pas, je vous donne X milliards chaque année, mais on va faire une fiscalité commune. On va prendre un point de TVA, enfin, un quart de point de TVA, vu les ordres de grandeur dont on parle, mais qui permettrait l'amorce de ce qui serait ensuite une vraie politique budgétaire. Peut-être qu'on aurait un budget européen qui pourrait, à la marge, être un tout petit peu en déficit, parce que ça dépendrait du cycle. Et on aurait des euro-obligations pour financer ce tout petit déficit. Bref, si on met bout à bout les réformes qualitatives qui permettraient à ce petit budget de servir de maquette à ce que plus tard pourrait être une véritable politique budgétaire européenne, alors on aurait gagné quelque chose. Et j'espère que c'est dans cette toute petite brèche que Macron, le gouvernement, va pouvoir s'engouffrer pour créer un précédent qui serve ensuite peut-être aux générations plus tard, plus futures, ou peut-être très vite, si la crise le rend nécessaire, de précédents, encore une fois, de réformes intellectuelles qui servent à l'avenir.
Daniel Cohen, on a parlé des menaces internes à l'Europe, avec notamment le changement de gouvernement italien, les menaces extérieures et, par exemple, ce qui se profile aux États-Unis avec une montée du protectionnisme. Votre point de vue sur la politique économique menée par Donald Trump?
On est évidemment, là encore, dans une provocation répétée de Trump. Bon, sur les histoires de l'aluminium et de l'acier, ça reste très symbolique. Les ordres de grandeur dont on parle sont minces. Et d'ailleurs, les rétorsions que les Européens envisagent de donner seront aussi très, très symboliques. D'ailleurs, pour viser, c'est assez ironique, son propre électorat. On a parlé des oranges en Floride parce qu'on sait que là, il a un grand réservoir d'électeurs. Ben voilà, c'est retour à l'ascenseur. Non, ce qui se joue, bon, et évidemment, tout peut déraper puisque là, maintenant, Trump parle de lever aussi des droits de douane sur les automobiles. Enfin bon, comme ce bonhomme est à moitié fou, on ne sait jamais où ça va se terminer. Pour l'instant, on est plus dans la posture qu'autre chose et les Européens sont assez attentifs à calibrer la réponse pour ne pas aggraver la situation. Mais Trump est quelqu'un qui est en train de tourner le dos à l'ordre multilatéral, c'est-à-dire un ordre de règles. On parle du commerce, mais l'environnement, pour moi, c'est la grande rupture, dénoncer les accords de Paris. Mais c'est une honte au regard de l'histoire, au regard en plus même de la portée de ces accords, qui étaient véritablement à minima, mais qui avaient le mérite d'exister. Et c'est ce mérite d'exister que ne supporte pas Trump. Donc on est à l'aube d'un monde qui est très très éloigné de celui qu'on annonçait en 1989 à la chute du mur, un ordre multilatéral, bon, libéral. On voit qu'il y a un monde illibéral qui est en train de se dessiner. C'est la discussion qu'on a en Europe. Trump en fait partie. La Chine aussi. Il y avait des procédures de renouvellement de ses élites qui avaient été mises au point par Deng Xiaoping, qui sont à nouveau balayées par Xi Jinping. Donc on voit qu'il y a quelque chose de très opposé à ce qu'on avait imaginé, le monde de Fukuyama de la fin de l'histoire. Ben, c'est pas du tout celui qu'on a. C'est une mauvaise passe, on va dire, pour l'avenir de la planète quand même, parce que ça veut dire que si on n'est pas capable de s'entendre sur des règles simples de base, alors voilà, le monde va être laissé aux intérêts de chacun et ça ne fait pas un intérêt collectif.
Un petit niveau de protectionnisme est-il envisageable? Est-il souhaitable? Alors, sur le plan économique, sur le plan politique aussi, puisqu'il y a une demande politique en faveur du protectionnisme?
Oui, l'électorat populiste, pour le dire vraiment dans des termes et entre autant de guillemets qu'on voudra, et c'est vrai en France quand on regarde dans le détail l'électorat de Le Pen, et ça l'est aussi pour l'électorat de Trump, est assez bizarre, c'est-à-dire que c'est un électorat populaire très hostile à la redistribution. On a fait une étude avec les données CVPOF, le centre, le CEPREMAP dont vous parliez tout à l'heure, on a regardé en détail les réponses aux questions des électeurs de Le Pen. Est-ce que vous voulez plus de redistribution, alors que ce sont des gens qui sont statistiques plus pauvres que le reste de la population, qui seraient les premiers bénéficiaires d'une politique de redistribution, ils y sont très hostiles parce qu'ils n'ont même plus confiance en l'État, ils se méfient de l'assistanat, ils pensent que si on fait de la redistribution, ça profitera aux Noirs ou je sais pas quoi. Bref, donc ils n'en veulent pas. Et donc, ils savent aussi que ça ne marche pas, que leur situation est menacée. Donc,
oui, parce que en fait, ce qu'il faut juste expliquer, c'est que toute cette politique menée par des gouvernements successifs, parce qu'en fait c'est vrai depuis Ronald Reagan aux États-Unis, la politique hostile à l'État-providence, c'est aussi une politique avec des arrière-plans raciaux.
Bien sûr, aux États-Unis, quand on dit les pauvres sont fainéants, en fait on veut dire les Noirs sont fainéants. Quand Reagan parle d'une welfare queen qui est capable de gagner 6 000 $ par mois en ne faisant rien et en multipliant les aides sociales, bon, on a pu démontrer très simplement que c'était évidemment faux, que ça n'existait pas.
Ben, il pense. Il y a des arrière-pensées racistes.
Il y a des arrière-pensées évidemment raciales, d'ailleurs, qui ont été démontrées par des études. Quand on demande à un Américain, est-ce que vous pensez que les pauvres sont fainéants? Ils répondent oui. On demande au même Américain, est-ce que vous avez eu un dîner avec un ami noir récemment? Ceux qui répondent oui et à qui on repose la question répondent non, les pauvres n'ont pas eu de chance. Ça montre bien que dans la psyché américaine, il y a une très forte corrélation. Donc oui, ça remonte à Reagan. Mais ce qui est différent de Reagan, qui était libre-échangiste, qui, au fond, était pas du tout hostile aux migrants, parce qu'il y voyait peut-être aussi une manière de faire pression sur le coût du travail, je ne sais pas. C'est ça qui a changé avec ce néo-populisme. Comme l'électorat qui le soutient ne veut pas de redistribution parce qu'il s'en méfie et puis qu'il est dans une idéologie, on va dire, un peu poujadiste, c'est-à-dire pas d'État, pas d'impôts, pas de régulation, qu'est-ce qui lui reste? Une demande de protection très métaphorique. Et c'est cette demande de protection métaphorique que Trump a parfaitement incarnée. Le mur pour protéger des Mexicains, faire rendre gorge à la Chine, voilà, ça fait partie des choses qui plaisent à son électorat parce que c'est un peu la quadrature du cercle. Comment les protéger sans l'État? Eh bien, en restaurant des frontières, c'est ça qui est le cœur, on va dire, de ce populisme de droite, par opposition peut-être à une réponse anti-système de gauche qui, elle, veut de la redistribution, veut de l'État, etc., mais qui ne se retrouve pas dans cette frange-là. Donc Trump est parfaitement la maquette de ce néo-populisme et c'est pour ça qu'il a besoin de montrer à son électorat qu'il fait quelque chose pour les protéger, même si en réalité, au bout du compte, en tout cas c'est ce que les Européens et peut-être les Chinois se chargeront de démontrer, ça peut faire beaucoup plus mal à son propre électorat que ça ne lui fera du bien. On va voir ce
parce qu'il en est. Parce que les conséquences du protectionnisme, on conserve en mémoire la comparaison avec les années 30, la contraction du commerce mondial. A-t-on raison de conserver ces schémas-là, Daniel Cohen ?
Ça fait partie, les années 30, encore une fois, c'est trois choses simultanées. Ça a été d'abord une crise bancaire, on en parlait tout à l'heure. C'est le risque auquel s'expose aujourd'hui, je pense, l'Italie s'il y avait une panique. C'est le protectionnisme. Dès juin 1930, les États-Unis faisaient voter une série de tarifs douaniers très importants, ce qu'on appelle la politique Hollis-Smoot, et qui a fini par créer une réponse de tous les autres pays qui a fait que le commerce mondial s'est effondré dans des proportions absolument considérables. Et puis, il n'y avait pas encore de keynésianisme, comme on disait à l'époque. Les politiques budgétaires ont toutes été très restrictives à cette époque parce que les États voulaient rester à l'équilibre pour rassurer les marchés. C'est ça qu'on a compris, mais qui peut créer des pathologies de sens inverse si on en fait trop alors que la crise est en train de partir aujourd'hui. On en aurait dû en faire plus pendant la crise, mais maintenant que la crise s'éloigne, ça serait pas le moment de revenir en arrière, enfin en tout cas à mon avis. Donc oui, tout ça revient, c'est assez extraordinaire. On voit la xénophobie, on voit les tentations protectionnistes. Il y a un peu une ambiance années 30, évidemment pas de même nature, mais quelque chose où on voit ce retour des démons, comme disait Jean Pisani dans un livre qui faisait exactement cette comparaison.
La seule chose qui manque, c'est l'inflation.
Alors, il n'y avait pas d'inflation dans les années 30. Il y a eu une immense déflation. L'inflation, c'est en 1923. On est, de ce point de vue-là, aussi dans une période déflationniste. Là, c'est ce que Milton Friedman avait reproché à la Banque Centrale Européenne, qu'elle n'avait pas été capable de relancer l'inflation. Les prix ont baissé de 30% entre 1929 et 1933, ce qui veut dire qu'on a eu une grosse déflation qui avait accru le poids des dettes.
Aujourd'hui, vous ne l'avez pas du tout.
Non, on est à inflation zéro. Enfin, on a eu une longue période d'inflation zéro. L'Italie a une inflation de 0,5%. Bon, alors, ça n'est pas de la déflation, mais on est à une inflation très faible, ce qui veut dire que c'est difficile de s'arracher au poids des dettes. L'inflation sert, il n'en faut pas trop, mais il en faut un petit peu pour mettre de l'huile dans les rouages. C'est ce qui manque aussi. Donc, ce climat déflationniste, oui, ressemble, encore une fois. Tout est beaucoup plus mesuré. On ne va pas se perdre dans ce point Godwin où on revient toujours aux années 30 et à Hitler. C'est pas ça, mais il y a quelque chose, en effet, qui remet en musique les mêmes mécanismes. Ça va pas. On a besoin de protection, on devient xénophobe, on n'a pas confiance en l'État et donc au bout du compte, on cherche d'autres solutions que celles que l'État pourrait apporter.
La solution, donc, sur le plan politique, on a vu en Italie, ailleurs, en Slovénie, on en a parlé tout à l'heure, qu'il y avait donc une attitude notamment par rapport aux migrants et une forme de xénophobie qui tendait à se répandre, ça c'est le premier élément. Et l'autre élément qui a souvent été associé, c'est les conséquences de l'austérité. Est-ce que vous pensez que dans ces phénomènes populistes, on voit la conséquence des politiques d'austérité qui ont été menées en Europe, Daniel Cohen?
Oui, je pense indiscutablement que la crise financière qu'on a connue de 2008 à 2016, disons 2017, a pesé d'un très très grand poids dans ce pessimisme. Le populisme, la montée de Le Pen, etc., c'est un phénomène des années 80, enfin ça remonte plus haut. Et je pense que c'est lié à une vague de fond beaucoup plus profonde qui est la fin du monde industriel qu'on a connu après-guerre, un monde dans lequel, voilà, la classe ouvrière avait sa place, tenait haut la dragée au patronat, était représentée par des syndicats forts. Enfin bon, il y avait un ensemble où tout se tenait. Tout ça, c'est plus ou moins dissous depuis les années 80, avec des classes populaires en errance, loin des centres-villes. Bon, enfin, toutes sortes de choses qui ont déjà été démontrées par tous les politologues qui ont analysé le vote en fonction de Le Pen. Mais la crise financière des années 2008-2016 a rajouté ce sentiment d'impuissance. Et ça a fait monter deux radicalités, encore une fois. Il y avait la radicalité de droite, au fond les classes populaires abandonnées dans une errance post-industrielle sans force de rappel. Et puis la crise des années 2010 a rajouté une autre vague à la protestation anti-système. D'ailleurs, c'est ça que l'Italie, encore une fois, a réussi à fusionner. Et c'est ça qui explique le climat dans lequel on est maintenant. Donc il nous faudrait 10 années de croissance pure purger tout ça pour revenir à une croissance forte qui montre qu'on retrouve un peu un sentiment de confiance en l'avenir. Il y a une statistique très intéressante qui a été montrée par Yann Algan et ses co-auteurs. Quand on regarde en 2008, quelle est la confiance que vous avez dans l'avenir et qu'on demande, on pose cette question à des gens qui n'ont pas le bac, il y a des gens qui sont à bac plus 3. En 2008, ils répondent à peu près de la même manière, c'est-à-dire bon, il y a le même pourcentage de gens qui disent oui, je pense que c'est pas mauvais pour moi. Et ce qu'on voit dans ces 10 dernières années, c'est un creusement considérable dans la réponse à la même question à ces deux catégories. C'est à peu près plat pour les bacs plus 3, pour le dire comme ça, et ça s'effondre pour ceux qui n'ont pas le bac. Donc la crise a produit ça, et la crise en effet, en partie, est le reflet de la très mauvaise gestion à coup de purge budgétaire qu'on lui a donnée, notamment en Europe.
Est-ce qu'ils ont tort ? Je veux dire, est-ce que lorsque vous prenez cette courbe avec un niveau de confiance plus élevé pour les diplômés que pour les non-diplômés, est-ce qu'ils ont tort dans la mesure où le marché du travail est aujourd'hui organisé de telle manière que
bien sûr que non. Et encore une fois, bien sûr, ils ont raison d'avoir de s'inquiéter. Mais j'insiste, cette inquiétude, elle est la conjonction de deux facteurs. Une lame de fond très importante et à laquelle on n'a toujours pas trouvé de réponse, qui est comment réencastrer les classes populaires dans la production de richesses depuis que le monde industriel s'est effondré. Et puis quelque chose de plus conjoncturel, mais enfin 10 ans, on n'est plus tout à fait dans la conjoncture, qui est la crise financière et la réponse qu'on lui a donnée. Au moins, apprenons à gérer les crises financières et on pourra passer du temps et de l'énergie, enfin le plus vite sera le mieux évidemment, à gérer ce réencastrement des classes populaires dans la production de richesses.
On a débuté ce dialogue en évoquant Nokia et en évoquant les GAFA. Est-ce que vous pensez que dans ce nouveau monde, avec les GAFA justement, les classes populaires ont une place évidente à trouver ?
Moi, je pense que oui. Je pense que, enfin, les classes populaires, c'est les classes moyennes inférieures, en réalité aussi, qui sont les premières concernées. Ce qu'on sait, c'est que, au cours des 30 dernières années, en fait, ce sont les classes moyennes inférieures, ceux qui travaillaient dans des bureaux, les ouvriers d'usines qui ont perdu leur job. Et on a assisté à un phénomène que les économistes appellent la polarisation du marché de l'emploi. C'est-à-dire, c'est très bien pour les très riches, mais il y a aussi beaucoup d'emplois de services à la personne, de nounous, de garde-malades, etc., qui ont été créés aussi. C'est au milieu de la distribution, dans les postes, encore une fois, de classe moyenne inférieure, que la destruction s'est faite. Je pense que oui, on doit pouvoir œuvrer pour que les infirmières utilisent, par exemple, au mieux les nouvelles technologies pour produire plus de biens à destination des emplois, que les gardes-malades, les instituteurs aussi bénéficient bel et bien de ces nouvelles technologies, mais il faut que l'État joue un rôle, parce que ça ne se produira pas tout seul, pour doter les services publics, les hôpitaux et les écoles des moyens d'utiliser cette révolution de l'intelligence artificielle. Et peut-être que si on le fait bien, oui, on arrivera à réencastrer les classes moyennes inférieures. Au 19e siècle, la première moitié du 19e siècle avait été très mauvaise pour les classes populaires. Elle avait été meilleure dans la deuxième moitié, parce qu'effectivement, on avait créé ces classes ouvrières telles qu'on les a connues après au 20e siècle. On est peut-être, j'espère en tout cas, en train de vivre quelque chose de cette nature. On a eu 50 mauvaises années depuis la dissolution du monde industriel. Et si on se donne les moyens d'y parvenir, on pourra avoir 50 années à venir meilleures.
On en discutera alors en compagnie aussi de mes camarades.